Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. Le bilan ne cesse de s'aggraver au Mozambique et au Zimbabwe après le passage du cyclone Idai. Au total, près de 700 personnes ont perdu la vie selon les derniers chiffres. Mais ce bilan est amené à s'alourdir car les secours n'ont pas encore eu accès à de nombreuses zones reculées. Désormais, les craintes se concentrent autour des conditions sanitaires dans lesquelles vivent les personnes touchées par ce cyclone. Le reportage à Beira, au Mozambique, d'Adrien Barbier.
Le ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correa, l'annonce d'emblée. Ces chiffres sont encore très préliminaires.
Malheureusement, nous avons enregistré pour l'instant la mort de 417 personnes. Sur le terrain, les eaux sont en train de baisser et le temps s'améliore, ce qui permet d'accéder à plus de zones. Nous avons réussi à rétablir les télécommunications, ce qui facilite grandement notre travail.
Ce bilan n'inclut pas pour l'instant les éventuelles pertes humaines de la zone de Bouzi, la plus touchée. À plusieurs kilomètres au sud de Beira, cette ville de 170 000 habitants a été complètement submergée par les flots, avec un niveau d'eau allant jusqu'à 11 mètres. Alors que la distribution d'aide alimentaire s'organise, le gouvernement et l'ONU s'inquiètent désormais de la propagation de maladies.
Nous devons faire attention au paludisme, aux diarrhées et au choléra. Nous avons réussi à envoyer des équipes médicales dans quasiment tous les districts.
À Beira, qui a été dévastée à 90% par le passage du cyclone, la vie reprend doucement son cours, l'électricité est revenue dans certains quartiers et la route qui relie la ville au reste du pays devrait être ouverte dès lundi.
Adrien Barbier. Au Mali également, le bilan s'est alourdi après le massacre d'un village Peul par des combattants habillés en chasseurs. Il est désormais de 134 morts. Après la libération de Baghouz par les forces démocratiques syriennes, quel avenir pour les Kurdes qui ont servi ces FDS pendant le combat contre le groupe État islamique. Ils veulent désormais parler avec Bachar el-Assad pour régler le sort des zones qu'ils contrôlent au nord du pays. Mais il est peu probable que les Turcs, eux, les laissent s'installer à leurs frontières, estime le géographe et maître de conférence à l'université Lyon 2, Fabrice Balanche.
Malheureusement, ça semble fini pour les Kurdes. La seule garantie des Kurdes, c'est la protection des États-Unis, la protection de l'Occident. Mais Donald Trump a annoncé fin décembre 2018 qu'il allait retirer ses troupes. Donc j'ai du mal à voir comment les États-Unis, l'Occident pourraient continuer à soutenir les Kurdes. Pour cela, il faudrait finalement que l'infrastructure du PKK abandonne le nord de la Syrie. Et à ce moment-là, peut-être que Erdogan renoncerait à lancer une attaque, que l'armée syrienne puisse se déployer à la frontière. Et puis, surtout, voilà, que les YPG soient dissous, que les membres du PKK retournent dans les monts Kandil, en Irak, pour ôter tout prétexte à Erdogan d'attaquer. Mais Erdogan, il veut vraiment une zone de sécurité au nord de la Syrie, comme il a fait à Afrin, pour plus de sûreté. Donc l'avenir est quand même assez sombre pour les Kurdes.
Et s'il jamais il se tournait vers la communauté internationale, justement ?
Ils se sont déjà tournés vers la communauté internationale en janvier 2018, lorsque le district kurde d'Afrin a été attaqué par la Turquie, avec expulsion de la moitié de la population kurde qui habitait dans cette zone. On a détourné le regard, on n'a absolument rien fait. Donc je pense que ce sera la même chose si la Turquie lance une offensive de grande ampleur dans le nord de la Syrie. Bon, peut-être pas que la Turquie attaquera tout de suite, mais c'est quelques semaines. Si la Turquie lance une offensive durant l'été, personne ne s'en rendra vraiment compte. Et puis la victoire contre l'État islamique, elle sera déjà loin.
Le géographe Fabrice Balanche avec David Ravier. De nouvelles conséquences visibles de la pollution du navire le Grande américain en Charente-Maritime. Deux oiseaux ont été retrouvés souillés par les hydrocarbures. L'un des deux n'a pas survécu et les analyses, Paul Nicolai, sont sans appel.
Le footbassin d'Andaï est mort des suites d'une contamination au fioul provenant du navire coulé par 4000 mètres de fond. Les analyses sont sans appel. Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Christian Védélago, le confirme.
Nous avons fait des analyses dès que l'oiseau a été retrouvé par la Ligue de protection des oiseaux. Ces analyses ont confirmé qu'il avait été mazouté à 70% par un produit qui est issu du Grande américain.
Le navire qui a sombré à plus de 300 km des côtes de La Rochelle laisse des nappes d'hydrocarbures en surface. Des pompages ont été effectués, mais les risques demeurent. Tout dépendra des conditions météo. Le maire d'Andaï, Côtier et Sénaro reste vigilant.
Je crois effectivement qu'il ne peut pas être venu comme ça, complètement mazouté, depuis le bateau qui a coulé depuis La Rochelle jusqu'à ici. C'est mission impossible. Donc je ne sais pas ce qui a pu se passer. Comment il atterrit là ? Est-ce que s'il a été pris dans un filet, il nous a été rapporté ? Je l'ignore.
Selon les experts, une éventuelle pollution ne devrait pas toucher les côtes avant le 29 mars prochain.
Paul Nicolai, le temps de ce dimanche, c'est nuageux. Au nord, ensoleillé, au sur, les températures de 1 à 8 ce matin, ça remonte cet après-midi.